Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. Tantôt se trouve dans le sombre souterrain d'une prison. Leurs pieds sont entravés et leurs dos portent les traces sanglantes de la solide bastonnade qu'on leur a fait subir. La nuit est déjà fort avancée. Mais cela ne les empêche nullement de chanter les louanges de Dieu et de prier. Quelques heures auparavant, une servante possédée du démon était venue au devant d'eux pour obtenir de l'aide. Ce qui est pitoyable avait profondément ému les deux disciples de Christ. L'un d'eux, nommé Paul, dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Qu'il sortit alors même. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car la Bible dit que les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, et les jetèrent en prison. Cependant, ni la prison, ni la souffrance, ni la torture, représentaient leur fer, ne pouvaient tempérer leur ardeur. Au contraire, ils se réjouissaient même, comme l'avaient fait Pierre et d'autres apôtres, avant eux, d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils exprimaient cette joie spirituelle profonde en chantant. Ces chants s'élevant au milieu de la nuit dans cette sombre prison, fut même le prélude aux événements miraculeux qui suivirent et que le livre des Actes décrit ainsi. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La question de la musique dans l'Église constitue une étude très intéressante. Nombre de ceux qui ont été tentés de le faire d'une manière exhaustive se sont sentis obligés de recourir à d'autres sources que la Bible. La raison en est que le Nouveau Testament a très peu de choses à nous apprendre sur cette partie du culte chrétien. Ce qu'il exprime est cependant clair et va droit au but. Et il est vraiment dommage que certains se soient arrogés le droit de modifier la parole de Dieu en ce qui concerne cette joyeuse partie du culte. Il faut que nous proclamions avec énergie que la seule musique acceptable dans le culte est le chant non accompagné. Lisons ensemble quelques passages des Écritures démontrant l'absolue vérité de cette affirmation. Matthieu 26, 30, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Éphésiens 5, 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Colossiens 3, 10, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Jacques, chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Très souvent, on me demande pourquoi les églises de Christ n'utilisent-elles donc aucun instrument pour accompagner les cantiques dans le culte? La réponse est très simple. Aucune mention n'est faite dans le Nouveau Testament quant à l'utilisation des instruments par les chrétiens dans leur culte. Il y a par contre ordonné aux disciples de chanter. N'importe quel argument en faveur de l'utilisation de la musique instrumentale dans le culte est en réalité faire preuve de partie en faveur de l'adjonction de certaines choses à la parole de Dieu. Paul exhorte les Corinthiens en ces termes, « Apprenez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » est souvent avancé par les partisans des instruments de musique dans le culte, que les psaumes de David ont été transposés dans le Nouveau Testament, puisque Paul ordonne de s'entretenir et de s'exhorter par des psaumes. On prétend donc que puisque la musique instrumentale est érotise dans les psaumes, il est donc normal et permissible de l'utiliser dans notre culte chrétien. Cette théorie s'effrite lorsqu'on considère que les psaumes de David faisaient partie intégrante de la loi de Moïse, et que par conséquent, cette loi a été accomplie, comme tout le reste de la loi, par le sacrifice de Jésus-Christ. Les psaumes dont il est question en Éphésiens 5:19, ainsi que dans d'autres passages d'ailleurs, ne se rapportent de toute manière pas nécessairement aux psaumes de David. Le mot psaume dont il est question ici provient du grec psalmos, signifiant chant pieux. Aucun psaume de David chanté de nos jours dans le culte chrétien ne peut enseigner une doctrine contraire à l'évangile de Christ, vous êtes bien d'accord. Or, il existe dans les livres des psaumes nombre de principes contraires à cet évangile. En voici quelques exemples. Premièrement, les holocaustes. Au psaume chapitre 20, et verset 4. Se rendre à l'autel de Dieu avec des harpes. Deuxième point. Psaume chapitre 33, verset 2 à 4. L'offrande des taureaux. Troisième chose. Psaume 51, 19 à 21. Quatrièmement, holocauste par le feu. Offrande de graisse de bélier, de brebis grasses dans la maison de Dieu. Psaume 66, 13 à 15. Cinquièmement, observation de la nouvelle lune et des jours de fête. Psaume 81, 3 à 4. Sixièmement, prendre le glaive pour exercer la vengeance sur les nations. Psaume 149, versets 6 à 9. Le fait que le livre des psaumes faisait également partie de la loi est démontré par les trois exemples bibliques suivants. Jean, chapitre 10 et verset 34. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi ?»« J'ai dit, vous êtes des dieux. » Or, cette loi, où se trouve-t-elle écrite ? En psaume 82, verset 6. Deuxièmement, Jean, chapitre 12, verset 34. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Où cette loi se trouve-t-elle écrite ? En psaume, chapitre 89, verset 27 à 30, en psaume 110, verset 4. Troisièmement, Jean, chapitre 15, verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui a été écrite dans leur loi. Ils n'ont haï sans cause. Donc, dans leur loi, cette affirmation peut-elle se trouver dans le psaume chapitre 35, verset 19, et dans le psaume 69, verset 4. Tout ceci nous montre que les enseignements du livre des psaumes, y compris l'utilisation des instruments de musique, s'appellent la loi. Et la loi, nous dit en Colossiens chapitre 2, verset 14, verset 17, a été éliminée et clouée à la croix. Et c'est pourquoi nous nous tournons vers le Nouveau Testament lorsqu'il s'agit du genre de musique à utiliser durant notre culte. L'argument selon lequel les instruments seraient permissibles et même autorisés parce que Paul nous recommande de nous exhorter par des psaumes n'est donc ni raisonnable ni interdit. L'être humain se rend coupable d'un grand péché lorsqu'il se permet de parler alors que la parole de Dieu reste silencieuse. Il pêche également lorsqu'il se met à supputer sur le silence de cette parole. Pour illustrer cette vérité fondamentale, on peut citer le cas des pharisiens qui s'étaient, au cours des années, et même parfois des siècles, rendus coupables d'ajouter petit à petit leurs propres règles, leurs propres ordonnances à la Bible. Et Jésus dit d'eux, sans d'ailleurs mâcher ses mots, c'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant les préceptes qui sont des commandements d'hommes. Le fait que la Bible n'interdise pas les instruments de musique dans le culte dans des termes nombreux et spécifiques est considéré par certains comme une autorisation, pour le moins tacite, de les utiliser. Nombre de choses ne sont expressément défendues par le Nouveau Testament, et cela n'exclut nullement que de multiples pratiques sont des péchés. Par exemple, les Écritures ne disent nulle part que tu utiliseras du rosbif ou du lait lors de la Sainte-Cène. Mais le fait que la Bible parle de pain sans levain et de fruits de la vigne pour cet office est considéré comme une preuve positive et irréfutable que toutes les autres choses sont interdites. Noé devait construire son arche en bois de coffret. Et cela excluait toute autre sorte de bois. La Bible nous donne pour instruction de chanter. Cela devrait également exclure toute autre manière d'adorer dans une certaine partie de notre et alors souvent posée. Peut-on vraiment considérer l'utilisation des instruments de musique comme contraire à la volonté divine? Ce mal, car mal il y a, se présente sous deux aspects. Le premier, il s'agit d'un acte de culte qui n'est pas motivé par la foi. Deuxièmement, cela ouvre toute grande la porte à l'imagination humaine qui peut à partir de ce moment-là créer d'autres actes de culte satisfaisant les goûts de l'homme mais non ordonnés par Dieu. Plusieurs exemples nous sont donnés qui démontrent que la colère de Dieu peut très bien s'enflammer subitement contre ceux qui modifient le culte qu'il demande à l'homme de lui rendre. Lors de la révolte de Corée, un certain parfum fut offert à Dieu, chose qu'il n'avait jamais demandé. Nombre, chapitre 16, verset 32, stipule que la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Dans l'Ancien Testament, alors que l'Éternel avait interdit tout travail le jour du sabbat, un homme crut bon d'aller ramasser du bois, précisément ce jour-là, malgré l'interdiction formelle. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et mourut, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et le livre des Hébreux lance cet avertissement divin. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Pour terminer, disons que seule la sagesse humaine croit devoir utiliser des instruments de musique dans le culte. Dieu, en ce qui le concerne, nous donne pour instruction dans sa parole de simplement chanter. Lisons ensemble deux versets bibliques qui nous feront certainement réfléchir. Le premier se situe en Proverbes chapitre 14 et verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Le deuxième se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Les chants que Paul et Silas élevèrent au milieu de la nuit furent entendus par le Dieu du ciel. Les chants de l'Église primitive faisaient vibrer les cordes du cœur de chacun. Et cela était acceptable aux yeux de l'Éternel. Les siècles ont passé, mais comme alors, la parole de Dieu enseigne toujours à ses serviteurs de chanter.
Alléluia, 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 alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Suggestions sur ce que vous voulez entendre et je vous réponds personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398 31086 Toulouse CEDEX. Et je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398 31086